voix nue. Cette semaine, Marie-Laure Delorme rencontre Amélie Nothomb. Ce soir, le temps qui passe.
Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour Marie-Laure Delorme.
Pour cette cinquième et dernière partie d'A voix nue, on va parler du temps qui passe et de votre rapport au temps. Est-ce que vous avez le sentiment que le temps passe lentement et depuis quand avez-vous le sentiment du passage du temps ?
Oui, j'ai le sentiment du temps qui passe. Je trouve qu'il passe lentement. J'entends tout le monde dire qu'il passe vite. Je ne trouve pas ça. Je trouve que je suis en vie depuis énormément de temps, que ma vie a été d'une longueur terrible et je ne dis pas du tout ça avec désespoir. Je suis heureuse de ce sentiment de durée. Paradoxalement, j'avais beaucoup plus l'impression que le temps était précipité quand j'avais 14 ans que maintenant. Je me souviens à 14 ans d'avoir vraiment paniqué sur le passage du temps. Je me disais, mais c'est terrible, je suis déjà en train de quitter mon enfance. J'entre déjà dans la vieillesse. Enfin bon, je me souviens avoir pensé des choses pareilles. Et finalement, non, c'est fou ce que je suis en vie depuis longtemps. Il se trouve que j'ai une mémoire surdéveloppée et je crois que ça renforce mon impression que le temps dure très longtemps.
Vous avez quel rapport au temps dans la vie de tous les jours ? Est-ce que vous faites partie de ces gens horripilants qui sont toujours à l'heure ? Ou est-ce que vous faites partie de ces gens horripilants qui sont toujours en retard ?
Je fais partie de ces gens horripilants qui sont toujours en avance. Et ça, ça fait partie de mes côtés japonais, j'ai toujours un quart d'heure d'avance. Une de mes hantises, c'est le retard. C'est génétique. Mon père avait l'obsession du retard. La génétique s'est plutôt arrangée. Mon père arrivait partout avec une heure d'avance. Je n'arrive qu'avec un quart d'heure d'avance. Je trouve que ça va.
Ça dit quoi, votre avis, sur vous, sur votre personnalité, le fait d'arriver toujours partout avec un quart d'heure d'avance ?
L'obsession de la politesse, puisque l'exactitude est la politesse des rois, et l'obsession d'avoir le temps de donner suffisamment à tout le monde. Quand j'arrive dans une... Je pense en particulier aux dédicaces, séances de dédicaces, qui sont somme toute le genre de rendez-vous que j'ai le plus souvent. Là, j'ai tendance à arriver très en avance parce que je sais qu'il va y avoir du monde et que je me fixe pour objectif d'accorder le plus de temps possible à chaque personne. Ça me rendrait malade de penser que quelqu'un s'est déplacé pour rien. Donc je veux donner quelque chose à chaque personne.
Est-ce que vous ne vous privez pas du plaisir qu'on... Paraît-il, les gens qui arrivent toujours en retard, celui d'être attendu, désiré.
Je serais incapable de le vivre comme ça. Moi qui ai un complexe de culpabilité colossal, si j'arrivais en retard, je le vivrais comme une faute et je passerais la première demi-heure à m'excuser auprès de tout le monde. Non seulement je n'aurais pas du tout le sentiment d'être désiré, mais j'aurais le sentiment que tout le monde m'en veut et comme c'est déjà un sentiment que j'ai tendance à éprouver, je ne fais rien pour aggraver ce sentiment-là.
On parle du temps qui passe avec vous, Amélie Nothomb. Est-ce que vous êtes un meilleur écrivain avec les années ?
Il ne m'appartient pas d'en juger, mais en même temps, si j'ai pu écrire Soif, c'est pas un hasard. Je veux écrire ce livre depuis toujours. Je veux raconter cette histoire depuis toujours. J'ai quand même attendu mon grand âge pour l'écrire. Je pense que...
Il faut dire de quoi parle Soif ?
Soif, c'est ma version de la crucifixion de Jésus. Voilà un livre que je n'aurais pas été capable d'écrire au début, ni au milieu. Il fallait que j'aie plus de 50 ans pour l'écrire. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que j'aie un âge particulier, il fallait que j'aie une certaine expérience. Ce livre est le 93e que j'ai écrit. Je pense que ce n'est pas un hasard. Il a fallu que j'écrive considérablement pour tout à coup me dire... Bon, c'est une chose insensée, vous imaginez, cette chose insensée de se dire un beau jour, bon, maintenant, ma vieille, tu vas écrire la crucifixion du Christ. En plus, j'imagine qu'il y a des gens qui s'en fichent de la crucifixion du Christ. Je m'en fiche pas du tout. Pour moi, c'est un truc énorme, la crucifixion du Christ. Ça m'obsède depuis toujours. Donc, vous imaginez ce qu'il a fallu que j'attende de moi pour me dire, bon, maintenant, tu t'y mets. En vérité, si j'ai commencé à m'y mettre, ce n'est même pas que j'ai pensé que je m'en sentais capable, c'est que tout à coup je me suis dit, bon, tu es consciente que maintenant, si tu attends plus longtemps, tu vas te détériorer, tu vas vieillir, tu vas perdre tes moyens et tu seras même plus capable de faire ton truc. Donc fais-le maintenant, parce que sinon, sinon il va être trop tard.
Et je n'aime pas cette expression, mais je pense que tout le monde va comprendre ce que je veux dire. Êtes-vous, avec les années, une meilleure personne, Amélie Nothomb?
Je ne suis pas sûre d'être une meilleure personne avec les années. J'aimerais beaucoup être une meilleure personne avec les années, mais je ne le vis pas comme ça. J'ai essayé de régler un très grand nombre de problèmes que j'avais. Je ne pense pas les avoir réglés. Et je crois que ça m'énerve, en fait, de ne pas les avoir réglés et que ça ne fait pas de moi une meilleure personne.
D'une manière générale, vous pensez qu'on change beaucoup dans la vie ou qu'on ne change pas? Parce qu'il y a les deux écoles.
Je pense que je n'ai pas beaucoup changé dans ma vie. Il y a des gens qui changent, pour du meilleur ou pour du pire, d'ailleurs. J'ai connu des gens qui avaient changé. Je trouve que j'ai extrêmement peu changé. Je ne sais pas s'il y a lieu de le déplorer ou non. Il m'est arrivé des traumatismes dans ma vie. J'ai eu un traumatisme terrible à 12 ans qui m'a énormément changé, qui a fait de moi une personne coupable que je n'étais pas auparavant. Donc là, oui, il y a eu un énorme changement à 12 ans et demi. Est-ce que ce changement a fait de moi une personne totalement différente? Non, il y a énormément de choses de la personne d'avant qui sont restées. J'ai malgré tout gardé cette attitude de personne qui croit au Père Noël, qui malgré tout va au-devant d'un grand destin, même en n'y croyant pas. Donc je crois que je suis quelqu'un qui a très peu changé au cours de sa vie. Et malheureusement, ça n'a pas fait de moi une meilleure personne.
Vous avez fait, je crois, une analyse de 2005 à 2011.
Oui.
Donc cette analyse-là, si on vous suit, elle ne vous a pas changé?
Elle ne m'a pas changé, elle m'a aidée, elle m'a appris énormément de trucs. C'était une analyse avec une personne vraiment extraordinaire à laquelle je dois beaucoup. Elle m'a appris des attitudes à avoir dans la vie que j'étais incapable d'avoir auparavant. Elle m'a appris un tout petit peu à me défendre. J'en étais totalement incapable. Et ça, c'est sans prix. Elle m'a appris à y voir clair dans certaines situations où je ne voyais pas clair du tout. Elle m'a expliqué des choses par rapport à moi. Donc elle m'a considérablement aidée. Je n'ai pas l'impression que ça ait fait de moi une meilleure personne.
C'était une femme ou un homme? Une femme.
C'était
donc
une femme, oui.
Quand on est écrivain, on se met dans la tête des autres facilement. À votre avis, qu'est-ce qu'elle pensait, votre psychanalyste, en vous entendant?
La pauvre, mon Dieu, si vous saviez comme j'ai pu la plaindre. Je pense que c'est pour ça que j'ai mis un terme à mon analyse 6 ans plus tard. C'était pas du tout parce que c'était fini. Franchement, il n'y avait aucune raison que ce soit terminé. Mais c'est parce que je n'en pouvais plus de culpabilité vis-à-vis d'elle. J'avais honte de lui déballer tout ça. Et à la fin, j'étais même persuadée qu'elle me détestait tellement j'avais honte face à elle. Donc un jour, j'ai dit, mais il faut que ça s'arrête parce que c'est plus possible. Ça a été d'ailleurs, ça s'est très mal passé. Puis finalement, ça s'est très bien passé parce que je lui ai expliqué, elle m'a expliqué, puis on s'est comprise. Mais je pense que c'était plus possible.
Le temps qui passe amène des regrets, forcément. Est-ce que vous avez des regrets dans votre vie?
Étrangement, non. Non, parce qu'il me semble avoir fait tout ce que je voulais faire et il y a des choses qui ont été dures dans ma vie, des violences, des choses qui se sont mal passées, mais je ne parviens pas à les regretter. Je pense qu'il y a une dimension nietzschéenne chez moi, excusez-moi, c'est probablement très prétentieux chez moi. C'est le côté amor fati. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et somme toute, de quoi t'es-tu privé? Est-ce que tu n'as pas... Si on m'avait dit, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 18 ans, tu sais, tu vas devenir écrivain, ça va très bien se passer, tu vas connaître l'amour. J'aurais dit non, mais arrêtez tout de suite. Évidemment que non, c'est impossible, des choses aussi faramineuses, aussi magnifiques, c'est impossible que ça m'arrive. Eh bien, somme toute, tout cela m'est arrivé. Alors, moyennant quoi, je peux quand même accepter quelques désagréments.
Et pourquoi si peu de foi en vous, alors que vous étiez une enfant aimée, née dans un milieu privilégié? Est-ce que c'est dû au traumatisme que vous avez subi à l'âge de 12 ans, qui a donc fracturé votre vie en deux?
Oui, avant cette histoire, à l'âge de 12 ans, je me souviens que j'étais extrêmement sûre de moi, mais extrêmement. Cette histoire, je l'ai vécue, mais comme une gigantesque punition. Non seulement ça m'était arrivé, mais ça m'était arrivé pour me punir. Donc, alors je vous rassure, par la suite, j'ai compris que non, bien sûr que non. Mais même si mon esprit, mon cerveau l'a compris, le reste ne l'a pas compris. Hein. Je suis toujours dans cette situation-là, vous voyez.
Je vous demandais si le temps qui passe amène des regrets. Est-ce qu'Amélie Nothomb, vous avez le regret de pas avoir une enfant?
Alors là, non, vraiment pas. Je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Même quand j'étais petite, je savais déjà que je ne voulais pas avoir d'enfant. Alors, je viens d'une famille où une femme doit avoir beaucoup d'enfants. J'ai d'emblée annoncé la couleur. On m'a ri au nez en disant, mais ma fille, tu ne te rends pas compte, quand tu tomberas amoureuse, tu voudras des enfants et tu verras que tu en auras. Ça m'est arrivé, je veux dire, je suis tombée amoureuse. J'ai toujours pas voulu d'enfants. Hein. Et maintenant qu'il est trop tard, non seulement je n'ai pas de regret de ne pas avoir eu d'enfants, mais comme je suis heureuse de ne pas avoir eu d'enfants. Là encore, il ne s'agit pas du tout de condamner l'enfantement, de ne pas aimer les enfants. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. J'aime énormément les enfants et je comprends très bien les gens qui ont des enfants. J'ai toujours su que je n'étais pas faite pour ça. Je suis persuadée que j'aurais été une mère catastrophique et que je n'aurais même pas eu de plaisir à avoir des enfants tellement j'aurais eu conscience d'être une mère catastrophique.
Vous auriez été quel type de mère catastrophique ?
Surprotectrice au dernier degré. Je pense que c'est pas un cadeau à faire à un enfant que d'avoir une mère surprotectrice au dernier degré.
Est-ce que, il faut vous demander pourquoi vous n'avez jamais voulu d'enfant ? Est-ce qu'il faut forcément trouver une explication à ça ?
Non, il ne faut pas parce que, honnêtement, j'ai pas attendu mon traumatisme pour pas avoir d'enfant. J'étais une petite fille bien dans sa peau, tout allait bien. Je ne voulais pas d'enfant. Je savais que je n'étais pas faite pour ça.
Est-ce que c'est parce que vous mettiez la liberté au-dessus de tout ?
J'imagine que oui. Je n'en sais rien. Je suis née sans cet instinct. Je n'ai même pas d'explication. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas cet instinct. Là encore, ça ne signifie pas que je n'aime pas les enfants. J'aime beaucoup les enfants des autres. Mais c'est un instinct que je n'ai pas.
Il y a eu un jugement dans votre famille ? Est-ce qu'il y a un jugement social aussi ?
Oui, bien sûr. C'est une des questions que les journalistes me posent le plus, c'est pourquoi n'avez-vous pas d'enfants ? Je ne dis pas que c'est une question infamante, je trouverais simplement que la justice voudrait qu'on pose la même question aux hommes. Donc ça m'irait si on posait aussi cette question aux hommes, et j'ai cru comprendre que ce n'était pas le cas.
Quel rapport vous entretenez avec votre passé ? Est-ce que vous vous souvenez de tout ? Est-ce que vous aimez vous y replonger ?
Je me souviens de tout, dramatiquement de tout. Alors il y a des périodes dans lesquelles je me replonge, mais à n'en plus finir, je me replonge énormément dans mon enfance. J'ai adoré mon enfance, en particulier ma petite enfance. Donc je me replonge énormément dans ma petite enfance. Mon adolescence, je m'en souviens dramatiquement bien et je la fuis comme la peste parce que je n'ai pas un seul bon souvenir d'adolescence. Et mon adolescence m'a fait l'effet de durer abominablement longtemps. À côté de ça, il y a des années parmi mes années d'adulte ou de jeune adulte ou de grand adulte, il y en a que je fréquente volontiers.
Nous sommes là chez Albin Michel. Pourquoi n'avoir pas fait cette interview, on ne vous l'a bien sûr pas demandé, chez vous ?
Je ne reçois jamais chez moi. Personne ne sait où j'habite, personne ne sait à quoi ça ressemble chez moi. C'est mon luxe. Je me donne le droit de ne pas recevoir chez moi. Voilà, c'est mon endroit.
C'est important pour vous, justement, d'avoir un jardin secret, d'avoir un lieu privé, vous qui êtes une personnalité publique, exposée.
C'est très important pour moi d'avoir un chez-moi privé. Je pense que c'est aussi pour ça que je n'ai pas Internet et que je n'ai pas de téléphone portable. C'est pour qu'il y ait un endroit où je sois réellement inaccessible. C'est-à-dire que chez moi, il y a le téléphone fixe, mais personne n'a mon numéro de téléphone fixe. Personne. C'est comme ça que ça doit être. Donc moi, je peux appeler les gens si je veux, mais personne ne peut m'appeler. J'ai besoin d'un endroit où je sois réellement introuvable.
Alors, je vais simplement vous poser une question sur chez vous. Est-ce qu'il y a des photos chez vous ? Et est-ce qu'il y a des photos de vous, de votre famille, d'artistes ?
Il y a très peu de choses chez moi. Et extrêmement peu de photos. Je pense qu'il y a une photo de moi, une photo de ma vie privée. Je crois que c'est tout. Alors sinon, j'ai reçu, et je n'ai pas su où le mettre ailleurs, j'ai reçu un artiste d'art contemporain a fait un tableau de moi et il ne savait pas où le mettre et il me l'a donné. Et ce truc est tellement grand que je pouvais pas le laisser chez Albin Michel. J'aurais bien aimé le laisser chez Albin Michel, mais en même temps, ça aurait fait très éditeur nord-coréen, vous savez. Donc finalement, ce tableau se retrouve chez moi. Alors j'ai trouvé une façon de le subir sans qu'il m'agresse trop. Je l'ai mis à l'envers.
Est-ce que vous avez été, vous, Amélie Nothomb, qui avez autant de fans, une fan? Est-ce qu'il y a une actrice, un acteur que vous avez adoré?
Oui, énormément. Et pourtant, je n'ai jamais eu véritablement une attitude de fan. Pourtant, il y a eu et il y a des gens que je vénère au dernier degré, mais mon attitude serait plutôt la fuite. Par exemple, la chanteuse Björk, j'ai pour elle une vénération, mais absolue. La femme, l'œuvre, tout ce qu'elle dit, je la trouve mais sensationnelle. Je n'ai jamais été à un de ses concerts. Je n'ose pas la rencontrer. Non que j'ai peur d'être déçue, je suis absolument sûre qu'elle ne me décevrait pas, bien au contraire, mais j'ai l'impression que ce serait trop fort, que ça me pulvériserait. Donc mon attitude face à une trop grande admiration serait plutôt l'évitement.
Et est-ce que, inversement, vous avez pu éprouver de la frayeur face à la passion de certaines de vos lectrices, certains de vos lecteurs?
Oui, bien sûr. Il y a eu cette histoire malheureusement un peu connue de cette fan qui en était arrivée au dernier degré de l'intrusion et dont je me suis rendu compte qu'elle me suivait dans la rue. Un jour, c'était en septembre 2017, j'ai ouvert la porte de mon appartement, elle m'attendait derrière la porte avec un couteau. Je vous assure que ça fait beaucoup d'effet. Bon, alors j'ai tout de suite refermé la porte et appelé la police. Ce genre de passion-là, non, ne suscite pas chez moi des sentiments agréables.
Est-ce que vous avez un metteur en scène, un réalisateur que vous portez au nu?
Oui, malheureusement, il n'est plus de ce monde, c'est Hitchcock. Il y a un film que je vénère plus que tout autre et qui est Vertigo de Hitchcock. Plus on le voit, plus il est mystérieux. Bon, on dit beaucoup aujourd'hui qu'il ne faut pas spoiler les films. Là, même si on vous spoile le film, il n'en est que plus mystérieux. La nature du personnage féminin de ce livre, c'est aussi un livre, oui, me fascine au dernier degré. Ça pourrait être l'histoire d'une grande menteuse et finalement c'est l'histoire d'une personne qui dit plus la vérité qu'une autre. Et c'est absolument fascinant, c'est une prouesse narrative et philosophique que je trouve absolument fascinante.
C'est votre lecture de Vertigo?
Oui.
Parce qu'on peut dire que c'est aussi quelque chose que vous aimeriez qu'on dise de vous, c'est-à-dire que... Si, quand même un peu.
Je ne sais pas si j'aimerais qu'on le dise de moi. Je ne pense pas d'ailleurs que je puisse me confondre avec le personnage de Vertigo, déjà parce que je n'ai pas le 20e de sa beauté, et ça fait une sacrée différence.
Mais on a parlé effectivement du sentiment que vous aviez qu'on ne vous croyait pas,
c'est ça,
alors que vous disiez la vérité.
Oui, ça c'est vrai. Ce sentiment d'imposture que j'ai toujours eu, parce que j'ai toujours eu le sentiment qu'on ne me croyait pas. Oui, là, si on pouvait, après coup, se dire, tiens, mais au fond, c'était quelqu'un qui disait plus la vérité que les autres.
Au Japon, on a, paraît-il, la nostalgie heureuse.
Oui.
En tout cas, c'est ce que j'ai découvert en vous écoutant. Est-ce que vous, Amélie Nothomb, vous avez la nostalgie heureuse?
Je m'y emploie. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas un réflexe. Je suis quand même une occidentale en ceci que ma première attitude face à la nostalgie, c'est le désespoir, le sentiment de la perte. Mais c'est vrai que lors de mon dernier voyage au Japon en 2012, j'ai appris la nostalgie heureuse et je trouve que c'est une attitude tellement plus logique et tellement plus saine de plonger dans ces souvenirs du passé, non pas pour déplorer qu'ils soient passés, mais pour s'émerveiller qu'ils aient eu lieu, que j'essaye de le vivre comme un exercice et en fait, avec beaucoup d'efforts, j'y parviens. Donc j'essaye de vivre ça de plus en plus.
Est-ce que vous relisez vos propres livres?
Quand j'écris un livre, chaque hiver, chaque fin d'hiver, vers février, je relis tout ce que j'ai écrit dans l'année. C'est ma façon de faire. Donc ça fait entre 3 et 4 manuscrits par an. Et là, si je m'arrête plus profondément à un manuscrit, si l'un d'entre eux me paraît plus intéressant, je vais le relire encore deux fois. C'est-à-dire que j'ai remarqué que j'ai droit à 4 relectures de mes livres. Au-delà de 4 relectures, c'est fini. C'est-à-dire que c'est comme une musique qu'on connaît trop bien, tout à coup on ne l'entend plus. je vais perdre mon livre au bout de 4 relectures. Donc j'ai intérêt à le relire vraiment avec une extrême profondeur pendant ces 4 relectures parce que c'est le seul moment où je vais pouvoir regarder mon enfant. Suite à ça, mon but, c'est généralement de le publier, donc je le publie avec un sentiment à la fois de grande joie, c'est le commencement de quelque chose, mais c'est en même temps une perte. Je perds mon livre. Littéralement, son sens est perdu pour moi. Heureusement, se produit alors, ça s'est produit en tout cas à chaque fois, une chose magnifique, la lecture des autres. La lecture des autres et surtout de certains autres, certains lecteurs tellement incroyables qu'ils vont combler mon angle mort. C'est-à-dire que l'enfant que je ne vois plus parce que je l'ai littéralement perdu, ils vont me le donner à voir encore mieux que je ne l'ai vu pendant mes 4 relectures. Donc, ma relation avec l'enfant va rester très forte grâce à ça. Alors, à côté de ça, il y a une chose merveilleuse, c'est l'écoulement du temps qui fait, non pas qu'on oublie, parce qu'on n'oublie pas, mais que 20 ans plus tard, on va commencer à pouvoir relire un livre qu'on a publié et à se dire tout à coup, tiens, mais c'était pas si mal, en fait.
Est-ce qu'il y a des classiques que vous relisez ?
Énormément. Je suis une très grande relectrice. Je disais tout à l'heure que j'ai lu plus de 100 fois Les Jeunes Filles de Monterland. J'ai lu 64 fois La Chartreuse de Parme. Je relis chaque année Le Portrait de Dorian Gray. Je ne sais pas combien de fois j'ai relu La Princesse de Clèves. Donc je suis une très 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 grande relectrice. Quand on aime un livre, quel plus grand bonheur que de le relire.
Est-ce que vous êtes sensible à la littérature japonaise ?
Extrêmement. Mishima est un de mes écrivains fondamentaux. Le Pavillon d'Or a été la lecture obsessionnelle de mes 13 ans.
Pourquoi ?
Parce que j'étais en situation de destruction et que c'est un livre sur la destruction. Et c'est un livre à la fois terrible et à la fois étrangement réconfortant.
C'est un livre sur la beauté ?
Oui, c'est un livre sur la destruction de la beauté, sur la haine de la beauté et en même temps sur la... Comme on sait que le Pavillon d'Or de Kyoto existe toujours, quand on lit et relit le Pavillon d'Or de Mishima, on se dit « c'est la fin du monde », mais par ailleurs, on sait qu'il a été reconstruit et parfaitement à l'identique, donc il n'y a pas de malédiction.
Dans Soif, vous parlez de la haine de soi,
oui,
comme du poison, oui, le plus commun. Est-ce que ça s'apprend de s'aimer ? Et est-ce que vous avez réussi ?
Ouf. Déjà, cesser de se haïr, c'est déjà un objectif suffisant. Hein. J'y travaille abondamment. Aller en Amazonie sert énormément à ça aussi. Mais c'est un travail terrible, terrible, terrible.
Pourquoi l'Amazonie, spécifiquement ?
Et parce que là, il se trouve que chaque fois que j'y suis allée, j'ai rencontré cette déesse qui est extraordinaire parce que Elle ne parle pas par métaphore. Hein. Quand vous la rencontrez, elle vous dit tout simplement ce qui ne va pas, ce que vous devez faire. Et puis merde, quoi, elle n'y va pas par 4 chemins. Donc, la dernière fois que je l'ai vue, l'ordre qu'elle m'a donné, c'est un ordre qui ne suppose aucune discussion. Hein, on est censé obéir. Elle m'a dit, sois ton amie. Bon, ça n'a toujours pas marché. Mais au moins, je sais que c'est ce que je dois faire. Je dois devenir mon amie. J'y travaille, c'est extrêmement difficile.
Vous n'avez pas peur que là, en vous écoutant, les gens disent « qu'est-ce qu'elle est bizarre, Amélie Nothomb ?»
Mais je sais qu'ils le diront et vous savez quoi ? Ils auront raison de le dire.
Quel rapport vous entretenez avec la mort ? Et est-ce que les écrivains n'ont quand même pas un rapport spécifique avec la mort ? Autant qu'on puisse faire de généralité.
Oui, vous avez tout à fait raison. Les écrivains ont un rapport spécifique avec la mort. Il ne faut jamais oublier que dans la mythologie... La seule personne qui ait pu traverser le Styx dans les deux sens et en revenir vivant, c'était un poète. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'écrivain, enfin le poète, est celui qui peut faire ça. C'est une obsession pour moi. J'ai déjà voulu rechercher des gens de l'autre côté. Parce qu'évidemment, la mort qui m'obsède, c'est pas la mienne. C'est même celle qui m'intéresse le moins et qui m'a l'air la plus merveilleuse. Qu'est-ce que ça doit être bien de se reposer enfin. Mais la mort des autres est pour moi... Et comme pour la plupart des gens, je crois, le problème principal. Qu'est-ce qu'on fait quand l'autre meurt ? Qu'est-ce qu'on fait quand l'être qu'on aime meurt ? Qu'est-ce qu'on fait quand on perd ses parents ? Qu'est-ce qu'on fait quand on perd la personne qu'on aime le plus au monde ?
Vous appréhendez la mort de vos parents ?
Énormément. Énormément. Et le fait d'avoir déjà perdu quelqu'un que j'aimais à la folie ne m'y prépare pas parce que chaque mort est différente. Il n'y a pas de mode d'emploi. À chaque fois, il va falloir trouver la méthode. En même temps, je ne suis pas totalement désespérée en ceci que j'ai déjà pu remarquer que la mort n'était pas la fin de l'histoire. On garde un lien tellement fort avec la personne qu'on a perdue que si on s'y prend bien, la relation peut rester.
Le froid est une notion importante dans vos livres. Pourquoi ?
Quand j'ai failli mourir moi-même, c'est-à-dire quand j'ai senti que la mort venait me chercher au fond de mon anorexie, j'ai senti un froid fondamental s'emparer de moi. C'était effrayant. On ne sait pas ce que c'est que le froid tant qu'on n'a pas connu ça. Mon corps est allé manger parce qu'il ne voulait pas de ce froid. Par ailleurs, c'est un froid que je retrouve souvent. Quand j'écris, je m'en rapproche à chaque fois. La température de mon corps baisse terriblement. Quand je suis sous hallucinogène, et en particulier sous ayahuasca, je retrouve, alors que je suis en Amazonie, qui est 35 degrés, j'atteins des températures, mais absolument abyssales. Dès que je suis dans un état modifié de conscience, ma température chute de façon absolument dramatique. Je pense que c'est ma manière d'être connectée à la mort. Je crois que j'ai fait l'expérience de la mort par la chute de la température et somme toute, j'écris tous les jours. Je prends assez rarement des hallucinogènes, mais j'écris tous les jours. Et c'est un état de conscience critique. Je me rapproche de la mort tous les jours.
Vous vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez été heureuse, Amélie Nothomb ?
Oui, je suis souvent heureuse. C'était il y a très peu de temps. Quelqu'un de très important pour moi a lu Soif et a eu une réaction absolument sublime. Et ça m'a plongée dans un très 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 grand bonheur.
Tout au long de nos entretiens, il y a un thème qui est revenu, c'est pas le seul, mais il y a celui-là qui est revenu, qui est le thème de la culpabilité. Dans Soif, Jésus dit « Je me pardonne ». Donc j'ai envie de vous demander comme dernière question si vous vous pardonnez, Amélie Nothomb.
Si vous saviez comme j'essaie d'y arriver, c'est vraiment ce que j'essaie de faire, j'essaie de me pardonner. C'est bien difficile, mais au moins j'ai trouvé l'objectif. Il faut arriver à ça, il faut se pardonner.
Merci Amélie Nothomb.
Merci Marie-Laure.
Fin de cette rencontre de Marie-Laure Delorme avec Amélie Nothomb. À voix nue, réalisation Laurent Polleret, prise de son Laurent Macchetti, coordination Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.